La maison autonome. Depuis des années, des centaines de lieux développent des solutions efficaces pour habiter joyeusement cette planète tout en préservant nos écosystèmes. En ville ou à la campagne, tous ont en commun de remettre le collectif, l'autonomie, la sobriété et la solidarité territoriale au centre de leur vie. Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. Comment vit-on autrement dans le monde d'aujourd'hui? Quels sont les chemins, les difficultés, les joies et les espoirs d'une vie différente? Ce podcast donne la parole à Brigitte et Patrick Baronnet, qui fêtent tout juste leurs 50 ans de mariage et leurs 74 ans d'engagement au service du vivant. Ensemble, dans cette émission, nous aborderons la vision de l'autonomie. Nous parlerons de l'importance d'une alimentation saine, mais aussi d'une pensée exemplaire pour agir sur la matière. Au travers d'une aventure collective, la maison autonome et l'éco-hameau du ruisseau se sont donné l'objectif de créer dans ce monde un monde nouveau avec plus de conscience et de cohérence.
Oui, tout à fait. Et je dirais en amont de tout ça, on a vécu les 30 Glorieuses. Et pour ma part, quand j'étais adolescent, j'étais heureux de vivre et en même temps, une certaine conscience m'amenait à ne pas comprendre le monde des adultes. Et je pense que beaucoup de choses graves qui se passent aujourd'hui, j'utiliserai l'insoutenable légèreté de l'être. Ce qui m'a fait énormément de peine et que, à mon âge adolescent, je ne comprenais pas, c'est aussi peu de réaction par rapport à ce qui était en train de se passer de la part des historiens, des politiques, des écrivains et de l'ensemble de la population adulte. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu penser la technique, penser la science, penser le développement. Ça n'a pas été fait du tout. Et donc, on en arrive à un monde absurde où seul, évidemment, l'argent et la science ont le droit d'être cités et aussi peu la pensée philosophique, aussi peu la sagesse, aussi peu l'éthique. Et donc, je n'ai pas compris ce qui se passait, mais en tous les cas, avec Brigitte, puisqu'on s'est mariés en 70, c'est demain qu'on fête notre 50e anniversaire de mariage, eh bien, on était d'accord tous les deux, et c'était rare, de rencontrer réciproquement des personnes qui ne se laissent pas aller dans le courant qui nous amène dans ce naufrage, j'allais dire. Et on a décidé, Brigitte et moi, je ne veux pas dire consacrer sa vie parce que ce n'est pas un mot qui convient, mais consacré, c'est avec le sacré. C'est-à-dire qu'on a décidé de vivre non pas comme vivaient les autres, mais comme il nous semblait juste de vivre.
Mais d'où te vient ou d'où vous vient cette conscience dans les années 70 de voir, parce qu'à cette époque-là, tous les curseurs sont au vert, le plastique c'est fantastique, tout est fait pour être dans une société du jetable, enfin, l'emploi se portait bien. Donc qu'est-ce qui fait qu'une partie des citoyens avait cette conscience et cette vision du mur qui était encore très très loin?
Bien sûr, le mur était loin, était perceptible pour certaines consciences, mais pas du tout pour l'ensemble. Alors, j'oserais dire, en prenant des risques, et il faut en prendre, qu'on est quand même issu d'un milieu catholique qui n'est pas du tout ma référence, mais à qui je dois une certaine réflexion, certainement pas totale, mais une certaine réflexion de référence au Christ, n'ayons pas peur de le dire, et on peut être non religieux et trouver que le Christ a dit des choses qui étaient quand même vachement intéressantes. Et donc, on a vécu dans d'une certaine simplicité volontaire. C'est un petit peu Pierre Rabhi qui le dit, mais on le vivait bien avant qu'il ne l'ait dit. Et on est aussi, Brigitte comme moi, issus du scoutisme. Donc aujourd'hui, il ne faut pas en parler parce que c'est très ringard. Je suis désolé, c'est un mouvement de jeunesse qui était beaucoup plus libre qu'aujourd'hui et qui avait des valeurs, qui avait beaucoup d'éthique et qui était une pédagogie vivante, très, très concrète, comme nous on essaye d'être concret. Et donc cette provenance qui aujourd'hui on peut la remettre en cause, et on la remet en cause en partie seulement, mais on ne noie pas le bébé avec l'eau du bain. Donc nous on a un côté à la fois ultra moderne, puisque effectivement, on est à l'origine de beaucoup de techniques innovantes, et en même temps, on a une réflexion, une pensée qui semblerait traditionnelle, mais certainement pas conservatrice.
En fait, quand on s'est rencontrés, qu'on a beaucoup dit, beaucoup discuté, c'était à l'époque 68, mais on était étudiants tous les deux. Moi, j'étais étudiant travailleur et Patrick étudiant en éducation physique. On s'est posé énormément de questions. Et c'était l'époque où, en fait, la France était première au niveau des énergies solaires. Elle était en avance à ce moment-là. Et en 1974, en fait, c'est le gouvernement qui a décidé, sans l'aval du Parlement, de faire du nucléaire. Et je pense qu'à chaque fois, on s'est énormément posé des questions. Lorsque nos enfants sont nés, nos deux garçons, en fait, on nous a dit, il faut les faire vacciner. Ah, c'est quoi la vaccination? Donc, on a cherché. On est curieux, en fait. On gratte, on cherche. Bon, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une vaccination quand on a des défenses immunitaires? Quand un petit bébé qui naît, est-ce qu'il a vraiment besoin de toutes ces vaccinations? Actuellement, on en est à 11, tu vois. Ou certains disent 13. Et du coup, à quoi ça sert? Et en fait, on avait lu, et je pense que le départ de notre réflexion aussi, c'était vraiment Lanza del Vasto, l'outil simple. C'est-à-dire, si tu veux, eux, ils passaient donc de la laine de mouton avec le rouet, ils filaient la laine, et en fait, après, ils tissaient et s'habillaient avec ce qu'ils avaient tissé. Ça m'a vraiment marqué, c'est-à-dire, en fait, ces filières laine, ces filets, enfin, toutes les filières quand tu fais ton pain, etc. Et du coup, c'était l'outil simple qui était important, et c'est vrai que toujours, c'est ces valeurs qui nous ont tenus. Moi, je serais bien restée en roulotte. Hein. C'est vrai que l'idée du voyage me plaît toujours. Mais on a trouvé cette maison qui n'était pas chère du tout, parce que dans le coin, c'était pas vraiment cher. Et du coup, c'était un moyen de pouvoir expérimenter des énergies douces et de vivre simplement. En fait, finalement, c'est une logique, enfin, c'est une cohérence, quoi. C'est-à-dire arriver à être le plus cohérent qu'on peut, quoi. Et pareil pour la nourriture qui nous a amené à créer nos coques bio, et puis voilà.
On est quand même dans un moment où bercé dans l'illusion du matériel, et pourtant vous avez quand même toujours réussi à suivre ce chemin de la cohérence et du bon sens. Pourquoi cette illusion n'a pas réussi à pénétrer en vous?
À vrai dire, la réponse, je n'en ai pas. C'est un mystère. Je pense que c'est une nature intrinsèque, profonde en nous. Je vais prendre le risque de parler un peu de... On fait des journées projet de vie, projet de maison. C'est-à-dire que samedi dernier, on avait 70 personnes pour la visite. Tous les samedis prochains, on aura entre 70 et 80 personnes. Et le dimanche, c'est ceux qui ont des projets qui viennent. Et il y a des gens, donc au-delà de tout ce qu'on peut enseigner au niveau de la technique, etc., en même temps, c'est un lieu de parole et les gens viennent beaucoup pour échanger. Et il y a une personne qui m'a posé un petit peu la question que tu poses, comment que ça se fait qu'on était résilient, on peut même dire résistant, d'ailleurs j'estime qu'on est résistant depuis 50 ans. Et bien la réponse qui m'est venue, elle est surprenante. Et j'ai pensé à Lanza del Vasto, qui a écrit un livre dont le titre était « La montée des âmes vivantes ». Vous voyez jusqu'où on va dans une discussion où on parle de piles photovoltaïques et de citernes d'eau pluviale. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que tout ce qu'on a fait, ça a du sens. Et la réponse de ça, eh bien, c'est qu'au moment où on est, il y a un esprit qui s'incarne en nous, on est profondément inégaux. Et que quelque part, on avait cette conscience innée que d'autres n'avaient pas. Et il ne s'agit pas d'être supérieur à qui que ce soit, mais c'est comme ça. Et donc, si on avait trahi ce germe de conscience, je veux dire, on serait à côté de notre pompe. Hein. Donc, il n'était pas question de trahir notre nature de profondeur. Voilà. Alors, ce qui nous a rendus autonomes au sens où on a pris du recul par rapport à ce qui était en train de se passer. Je voudrais donner un exemple. Il y a eu mai 68 et j'étais étudiant. Je connaissais toutes les thèses marxistes, léninistes, trotskistes, etc., puisque j'avais des étudiants qui étaient dans cette gauche-là. Et le 18 mai, il y avait une grève générale où toute la France faisait grève, et en partie à Paris, il y avait des centaines de milliers de personnes qui défilaient. Donc pour être dans l'histoire, j'étais dans cette foule et je suis monté sur une colonne de la gare du Nord. Et je voyais devant moi des dizaines de milliers de manifestants qui étaient sous une bannière et qui avaient des slogans. Et je regardais tout ça avec un œil complètement détaché, non pas indifférent, mais détaché. Et je me suis pincé pour savoir qui j'étais. Je me suis dit, mais tu n'es pas enthousiaste, tu n'es pas dans la foule, tu es à côté. Qu'est-ce que tu viens foutre ici ? Et je me suis posé la question, mais je ne suis pas comme les autres. Effectivement, je ne suis pas comme les autres. Et c'est terrible, parce qu'à un moment donné, quand on est jeune, on n'a pas les ressources intellectuelles pour comprendre qui on est. Et j'ai quand même compris que, un petit peu quand même imprégné de Gandhi, de Lanza del Vasto, etc., que la première chose à faire, ce n'est pas de demander que les autres changent, mais c'est de changer soi-même. Et en fait, notre vie est consacrée d'abord à notre changement personnel. Et donc l'idée, c'était pas de changer la société, c'était pas d'être à gauche ou d'être à droite, mais de s'engager personnellement, parce que le témoignage n'est pas une manière de convaincre, c'est la seule. Et ça, je l'ai compris rétrospectivement. Et donc, je me suis dit, je ne suis pas dans ces mouvements-là, mais je suis dans mon propre mouvement. Et donc, on a décidé qu'on allait, encore une fois, consacré, c'est-à-dire avec le sacré, hein, on a sacralisé notre vie en se disant on va être authentique, on va être réel, et franchement, on ne regrette pas.
La voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Il a le feu, hein, pour un jeune homme de 74 ans. Comment on fait pour garder la pêche ?
Alors, j'ai fait des études de prof de yoga, puis ensuite, au bout de 15 ans, j'ai fait des études de prof de gym. Donc, pour répondre à ta question, la santé, c'est quand même quelque chose qui se cultive. Alors, je dirais qu'il se cultive dans tous les sens du terme. La santé, c'est quelque chose qui se cultive depuis 40 ans dans des terres qui ne sont pas polluées. La santé, c'est quelque chose qui, tous les jours, c'est une attention à, évidemment, la nourriture, évidemment, d'où vient la nourriture. Et ensuite, c'est bien respirer, c'est entretenir son corps par des mouvements, effectivement, d'étirement, etc. C'est vivre en plein air. Et donc, si on est ici, c'est parce qu'on a compris qu'il n'y a rien été plus important que d'être en bonne santé pour la santé de la Terre. Parce que être en bonne santé, c'est une exigence que les gens n'ont pas forcément. Et donc, ils peuvent manger n'importe quoi sans que ça leur pose problème. Alors que nous, ça nous pose problème. Et par conséquent, ça nous a amené à faire attention à manger, à faire attention au moment où c'était vilain de pas mettre de, enfin, où c'était pas vilain de mettre des produits chimiques. Donc notre jardin a toujours été en biologie. Et à un moment, on s'est dit, on va créer un groupement d'achat pour commencer à amorcer une demande. Parce que pour que les producteurs changent, il faut qu'il y ait des acheteurs. Il n'y avait pratiquement pas d'acheteurs. Alors à cette époque-là, on était considérés comme des cinglés. Alors il y a une chose quand même pour répondre à une de tes questions, c'est qu'on n'a pas eu peur d'être à contre-courant et être pris pour des cinglés et des fous. Alors ça, effectivement, c'est une force d'âme. Pourquoi ? Parce que le but était beaucoup plus important et qu'on n'a jamais dérogé à notre éthique qui nous avait été enseignée par les mouvements qu'on a connus. Et donc, on a été, Brigitte et moi, dans les premiers à créer les coopératives biologiques. C'était des coop bio. Aujourd'hui, c'est des biocoop, ça a changé de statut. Et pendant 7 ans, j'étais gérant bénévole. Aujourd'hui, on n'aurait pas le droit. J'étais 7 ans gérant bénévole de la coop biosphère qui se trouve à Châteaubriant. Donc, je dirais que j'aime pas le mot, hein, mais le militantisme est directement lié de notre engagement personnel par rapport à notre corps. Tu parlais de la santé. Et donc, entre notre corps et le corps de la Terre, pour nous, ça fait la même chose. Et donc, on n'avait pas le droit de ne pas intervenir par rapport au problème agricole, qui est le problème, à mon avis, majeur de ces 50 dernières années. Parce qu'avec l'agriculture, eh bien, c'est l'aménagement du territoire qui a complètement changé. Je m'explique. C'est qu'avant, ici, il y avait 10 fois plus d'agriculteurs. Aujourd'hui, les surfaces, au lieu d'être de 12, entre 10 et 30 hectares, c'est entre 100 et 400 hectares. Ça veut dire qu'il y a un agriculteur super chimiqué, super mécanisé, qui a pris la place de 10 autres agriculteurs pendant 50 ans. Et qu'ont fait les agriculteurs? Ils ont été en ville. Donc, on est aujourd'hui dans un urbanisme délirant et dans le désert des campagnes. Ce qui nous amène à tout ce qui se passe aujourd'hui.
Ok, donc vous suivez ce chemin de la cohérence, vraiment cette notion d'être dans l'action, dans le concret, d'incarner ces valeurs depuis des années, depuis on parle de 1970, et de voir le monde qui part complètement à la dérive. Comment est-ce qu'on arrive à accepter? Comment est-ce qu'on accepte? On est là, on a envie de changer le monde, on incarne cette notion d'exemplarité, et pourtant le monde continue à aller de plus en plus vite dans le mur qui se rapproche.
Alors c'est intéressant parce que nous, on est optimiste par choix, et on voit ce qui se passe de positif. C'est-à-dire que depuis 20 ans, au départ, on faisait une fois par mois une visite avec 30 personnes. Aujourd'hui, on a 100 personnes par semaine. Donc, ce qui se passe, c'est que si on regarde l'ensemble de ce qui paraît à la télé ou dans les journaux, évidemment, on a l'impression qu'il n'y a pas une évolution de conscience. Mais nous, on s'aperçoit qu'il y a un progrès absolument énorme et que de plus en plus, les gens ont envie de changer personnellement. Et nous, on est là pour les aider à prendre les moyens d'un changement profond. Donc, on n'est pas des naïfs, on voit ce qui se passe. Mais en même temps, la meilleure médiatisation qu'on puisse faire, c'est encore une fois le témoignage. Et comme il n'y a pas énormément de personnes qui témoignent, surtout avec le recul que l'on a, les gens viennent chez nous. Mais pour répondre aussi à ta question, excuse-moi, mais quand on voit la télé, quand on voit les journaux, c'est une catastrophe. Maintenant, sont-ils encore aussi crédibles qu'ils ne l'étaient avec le Figaro, l'Aurore, il y a 50 ans? Je ne crois pas. Donc les gens commencent à comprendre que c'est vraiment... C'est presque du poison qui inocule dans nos cerveaux, quoi. Donc, quelque part, avec aussi Internet et tout ce qui se passe sur YouTube, je pense qu'il y a un autre type de média qui amène les gens à plus de conscience.
On a proposé des solutions concrètes. Qu'est-ce que vous faites pour justement être dans ces valeurs de changement, de respect de la Terre, etc. Là, en fait, on n'a pas encore parlé de l'éco-hameau, mais on a ouvert nos portes à l'éco-hameau. Donc, on est plusieurs familles. Et en fait, on a tous fait la formation de permaculture. Et ce que j'ai trouvé chouette dans ces formations, c'est que la première chose qu'on apprend, c'est l'éthique avec les valeurs de amour de la terre, amour de l'autre et partage. Et puis, en fait, c'est toutes ces dimensions que finalement on a toujours mis en avant. Et c'est ça que je trouve formidable, c'est ça qui nous relie sur l'éco-hameau. C'est-à-dire ces valeurs de la permaculture finalement qu'on a toujours mis en route, quoi, qu'on a concrètement, et que finalement là on retrouve.
Brigitte, tu me tends la perche. Donc l'éco-hameau, c'est vrai que cette série d'émissions radio en partenariat avec la coopérative Oasis donne la parole à tous ces éco-hameaux, ces éco-villages, ces éco-lieux. On parle aussi d'habitat groupé ou d'habitat participatif. Souvent, il y a cette notion du collectif. Donc je veux bien qu'on parle de cette expérience de vie. À quel moment la dimension collective est arrivée dans vos choix de vie qui jusqu'alors étaient plutôt un choix de couple ou un choix personnel?
Je voudrais quand même pas dissocier... J'estime qu'on est collectif depuis 50 ans. C'est-à-dire qu'on a été engagé au niveau de la communauté du pays et on ne peut pas dire qu'on ait commencé notre vie collective il y a 10 ans. Ce n'est pas vrai. C'est simplement une suite logique. Mais ce qui a déterminé la venue de l'éco-hameau, c'est pendant peut-être une dizaine d'années, le désir d'avoir du terrain pour pouvoir accueillir des personnes. Donc, le facteur limitant, c'était l'absence de place. Et comme par hasard, et ça m'amène après, évidemment, aux gens qui viennent à aller assez loin, il se trouve qu'on est, nous, Brigitte et moi, profondément persuadé que l'impact de la pensée agit sur la matière. Donc c'est très nouveau, mais avant même de connaître Philippe Guillemant et les physiciens reconnus de tout le monde, on pratiquait déjà ça. Donc on est des êtres puissants, et donc les terrains qui étaient totalement improbables, qui étaient limitrophes à notre situation, eh bien on a réussi à les avoir. Le premier, ça a été un terrain de 1 hectare avec 2 hangars, qui était séparé de notre lieu par un autre terrain. Et cet autre terrain, d'une manière totalement inattendue, on l'a eu. Si bien qu'on a une parcelle de plus de 2 hectares en un seul tenant. À partir de là, à partir justement de cette attitude de pensée ouverte sur le monde et sur les autres, donc on l'était bien avant que le hameau n'existe, eh bien on a réussi à avoir les circonstances favorables à accueillir des personnes chez nous. Après, on s'est débrouillé, mais depuis 10 ans, on fonctionne. Il y a beaucoup plus de côtés positifs que de négatifs. Et on fonctionne ensemble, c'est-à-dire qu'on continue le travail qu'on fait sous forme de séminaires. Et donc, on est 6 à faire les séminaires de 6 jours. Donc, c'est une immersion dans notre vie de tous les jours. Alors, on initie à la nourriture alternative, à l'agriculture alternative, à l'éco-construction, à l'autonomie électrique, puisqu'on est, j'ai oublié de dire quand même qu'on est autonome depuis 23 ans en électricité. Depuis 43 ans, on ne paye plus de facture d'eau. Donc, c'est intéressant. Et l'idée, c'est que chaque individu peut reprendre sa vie en main, contrairement à ce qu'on peut nous dire, papa État, non, c'est nous qui sommes pères de notre propre vie.
Reprendre sa vie en main, être sur les chemins de la résilience, de l'autonomie, que ce soit énergétique ou alimentaire, on a donc l'exemple ici de la maison autonome. Donc peut-être, je vais te demander Patrick, ce que tu entends par le mot autonomie.
Mon premier bouquin, j'ai mis autonomie solidaire. Je ne peux pas mettre le mot autonome sans solidaire. Et la première autonomie, c'est un travail sur soi. Et en faisant un travail sur soi, déjà, on est relié à l'ensemble. Maintenant, il y a comme des cercles concentriques. Et ça a été repris très intelligemment et très pertinemment par la permaculture, qui n'existait pas du temps où on exerçait sans le savoir la permaculture. Il y a des zones. Et je dirais que la première zone, c'est soi. Changer. Ce qui va amener à une nourriture différente. Et donc, ce qui va nous amener à voir qu'est-ce qu'on peut faire personnellement en étant presque totalement autonome. Et le presque est très important, parce qu'on ne peut pas être autonome sans être solidaire, à un moment donné. Mais ce qui est important, c'est de reprendre le pouvoir sur ce que l'on peut produire. Or, il se trouve qu'on a montré qu'on peut produire son électricité, qu'on peut produire son eau, très bonne eau à boire, hein, qu'on peut produire ses maisons en les construisant, qu'on peut produire sa santé, j'en passe certainement, qu'on peut produire son épuration et qu'on peut produire au moins à 50%, voire peut-être 70% sa nourriture. Et ça m'amène à parler d'une maison, un puits, un jardin. En 1968, en 1970, d'ailleurs, je mentionne qu'en 1974, René Dumont, qui représentait l'écologie, a eu 1,83%. On était loin du compte. Eh bien, à ce moment-là, une maison, un puits, un jardin, même mes parents disaient que c'était ringard. Et quand ils nous ont vu acheter cette petite maison, ils étaient tout tristounets parce qu'ils se disaient « tu t'installes dans la misère ». Aujourd'hui, eh bien, une maison, un puits, un jardin, après le confinement, c'est extraordinaire. Tout le monde cherche. Voilà, et on revient, c'est pas magiquement, mais parce que c'est évident, par l'évidence, que arriver à maîtriser sa maison, sa nourriture, son énergie, son eau, c'est quelque chose de majeur. Et on est en train, là, au niveau de la solidarité, de créer justement de la solidarité. Parce qu'à partir de tout ça, il y a des chantiers participatifs, il y a des cours alternatifs de nourriture, d'agriculture. Et en fait, c'est tout un enseignement alternatif qui n'est pas forcément perçu parce qu'il n'est pas officiel, qui fonctionne très bien. Et donc, en fait, il y a en underground une vraie société solidaire qui est en train de se créer à partir de l'autonomie. J'essaie de répondre à ta question.
La voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà. une société plus respectueuse, plus humaine.
La maison autonome, alors peut-être revenir quand même sur cette notion d'éco-village, j'aimerais bien comprendre de quoi il est question. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc j'ai bien compris qu'il y a de la formation, de la transmission autour de la permaculture, mais qu'est-ce qui est organisé ici sur le hameau du ruisseau et la maison autonome? Parce que j'ai toujours pas, moi dans mon esprit, encore réussi à dissocier les deux. Quelle est la différence entre la maison autonome et le hameau du ruisseau?
Disons que maintenant, le hameau du ruisseau est une entité globale qui intègre la maison autonome et nos amis qui sont... qui font partie de l'éco-hameau. Alors, évidemment, on se répartit les tâches en fonction de qui nous sommes. Il se trouve que il y a à la fois de l'instruction au niveau de l'école en famille, par exemple, qui c'est pas nous. Je faisais des formations en capteur solaire, etc. Maintenant, c'est Olivier qui le fait. Cécile s'occupe aussi de tout ce qui concerne la formation à la communication bienveillante. Elle est intermédiaire en cas de conflit, ça apporte un nom. Elle est médiatrice, etc. Terra s'occupe essentiellement de la terre, etc. Donc chacun, on a nos spécificités. Chacun est relativement autonome ou une association ou une entreprise, etc. à l'intérieur de l'ensemble. Et ce qui fait le lien, c'est le lieu. Par exemple, on a des moutons, on est tous concernés par les moutons, on est tous concernés par les poules, on est tous concernés par le jardin mandala qui fait 400 mètres carrés et donc on fait œuvre commune. Donc on arrive, et je pense que c'est ça qui est important, c'est que c'est pas une fusion, on n'est pas fusionnel. On garde tous nos identités, nos caractères, nos propensions à aimer telle ou telle chose. Mais je dirais que le plus grand ciment qui soit chez nous, c'est ces moments de 6 jours où on reçoit des gens pendant les séminaires qui s'appellent « Autonomie permaculture ».
Donc le mot « autonomie », tu l'as très judicieusement associé à la solidarité. Dans le collectif, il y a aussi cette notion d'interdépendance et de complémentarité. Est-ce que tu peux me dire quel est ton ressenti sur le collectif? Souvent, on entend « seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ».
Alors, je me méfie de ce genre de réflexion parce que ça semble évident, mais ce n'est pas aussi évident que ça. Et que je pense que parfois, il faut un leader, j'ose le dire. Et après, les gens, s'ils sont convaincus, ils suivent le leader. Mais le leader a une fonction sur un propos précis et sur un temps précis. Parce qu'il faut arrêter ce fusionnel qui commence à me casser les pieds. On est tous mignons, on est tous gentils, on va tous faire la même chose. Sûrement pas. Donc, au contraire, c'est la révélation des individus qui peuvent s'exprimer et quand ils ont besoin du collectif, il est là pour aider la personne à s'exprimer et peut-être faire du bien à tout le monde.
Du coup, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de ces séminaires de 6 jours? Qu'est-ce qu'on... permaculture, autonomie? Du coup, j'ai entendu dire que vous aviez... Enfin, je ressens que votre approche est très holistique et enracinée avant tout dans une recherche de cohérence personnelle avec qui on est en tant qu'individu et comment s'épanouir au mieux dans un contexte de vie qui inclut d'autres personnes. Quel a été votre choix de contenu pour cette formation?
Alors, on a beaucoup travaillé ensemble. On a dû travailler pendant un mois régulièrement sur des plages horaires parce qu'on est quand même bien occupé étant donné qu'il y a l'école à la maison, il y a différentes choses. Mais on s'est donné une direction, on s'est donné en gros un canevas et puis de ce qu'on a envie d'apporter comme moyen pour trouver en fait comment arriver à mettre en place cette permaculture à l'intérieur et de nous-mêmes et de notre projet. Voilà, c'est ça. En fait, chacun arrive avec un projet, enfin les stagiaires arrivent chacun avec leur projet et c'est comment les aider à le mettre en place et à le structurer et donc leur donner beaucoup d'outils mais qu'on va jouer. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des cours en chair, enfin tu vois, quelqu'un qui est au tableau et qui écrit, non, on va le jouer, on va le performer, enfin voilà, et du coup, ça va être intégré, on va l'intégrer. Et du coup, nous, on joue autant que les stagiaires et on prend autant de plaisir que les stagiaires à jouer. C'est, essayer des choses nouvelles, faire des mélanges, on les encourage à créer.
Il y a cette notion du sens, cette quête de sens qu'on observe très largement autour de nous. Aujourd'hui, les gens veulent remettre un peu le sens au cœur de leur vie. Et souvent, remettre du sens passe par se changer soi. On en a parlé au début de cette émission, dans une action concrète. Et j'ai l'impression que l'homme est quand même quelqu'un de très paresseux. Et c'est des fois compliqué de se changer soi. On préfère aller vers la démarche de la facilité.
Moi, je dirais qu'il est paresseux par conséquence. C'est l'absence d'enthousiasme. Et pour répondre aussi à la question que tu posais à Brigitte, on essaye de passionner les gens, de leur donner de l'enthousiasme. Et paradoxalement, enthousiasme, il y a le radical, comme dans athée, TH, il y a, ça veut dire Dieu, quelque part. Mais au-delà de ça, on essaye de montrer aussi que la vie a un sens, que la personne doit découvrir ses lieux d'excellence, travailler sur ses points faibles aussi. Et faut pas oublier de dire aussi qu'il y a, pendant ces séminaires, des moments extraordinaires. On est autour du feu, on chante, on joue de la musique, on danse. En fait, pendant 6 jours, on fait énormément de choses et en même temps, on essaye de mettre du lien dans toutes les choses. C'est-à-dire que l'alimentation, c'est une chose, mais la santé est liée à l'alimentation. L'aménagement du territoire, le politique, au sens profond du terme, est complètement lié à notre mode de vie. Et si les individus ne changent pas, la politique ne changera pas. Quand ils s'en vont, ils sont, je dois le dire, un peu sonnés, parce qu'on leur apporte énormément d'éléments. Et donc, il leur faut un temps d'intégration derrière. Je ne voudrais pas être à leur place, parce que nous, on a mis 30 ans à intégrer tout ça. Et donc, mais en même temps, ça passe parce qu'on rigole, on déconne, on joue, on est en plein air, on est quand même dans un cadre, j'espère, super agréable, dans le Zoom, par exemple. Et ils voient ici toutes les constructions. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, il y a les ateliers où tout le monde tourne, c'est-à-dire chaque jour un groupe, on fait des groupes, hein, et puis y en a qui font le compost, il y en a qui font la bouffe pour le midi, pour le soir, il y en a qui participent à la terre, à l'éco-construction, etc. Donc, et au bout de la semaine, ils ont fait à peu près tous les ateliers, et voilà.
Juste, la chance qu'on a, c'est qu'en fait, je crois que tous les membres de l'éco-hameau, on est d'accord sur... on est vraiment en phase, voilà. Cette symbiose. Alors, on n'est pas les uns sur les autres. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui nous permet aussi d'avoir des respirations. L'entraide, elle est vraiment au cœur du sujet. Et là, en fait, y a un petit bébé qui va arriver. Et je pense qu'on est tous... conscient qu'il va falloir aider un minimum, mais tout le monde est enthousiaste de cette naissance. Je pense que ça va amener quelque chose de très beau.
Et moi, j'ai envie de dire, honnêtement et humblement, c'est pas n'importe qui peut vivre ici. Et donc, on est amené à sonder un petit peu les personnes qui sont capables de... Une personne qui ne rangerait pas ses outils, ça c'est la catastrophe, c'est comment on fout le bordel dans un éco-hameau. Une personne qui arrive régulièrement en retard, des gens qui sont d'humeur très inégale, c'est fatigant, etc. Donc j'estime qu'à la fois on a de la chance d'être tombé sur les personnes qui sont là, mais en même temps il y avait une sorte de parcours. Les gens en principe, c'est ils font une visite, ils font une journée, ils font le séminaire et puis après ils nous demandent. Mais ce n'est pas le nombre de gens qui rêvent, qui voudraient, ils ont passé leur vie à bosser dans le système, d'un seul coup, mettre les pieds dans le chausson d'un éco-hameau, surtout que les gens, ils ont l'air sympas, ça serait super. Ben non, pas du tout. Non, les oasis, les éco-hameaux, c'est quand même des zones de lumière et ce n'est pas n'importe quoi. On est quand même initiateur d'un autre monde, on ne peut pas prendre n'importe qui. Et ça, il faut être clair et oser le dire.
Aujourd'hui, dans tous les mouvements qu'on observe chez les néo-ruraux, il y a une part de rêve. On veut quitter le mode de vie urbain pour aller vers la campagne, parce qu'on a tout un imaginaire autour de la campagne, la nature, les animaux,
caresser une poule,
caresser une poule et manger une carotte fraîche. Enfin, finalement, on arrive à fédérer tout le monde autour de cet idéal de la nature.
Oui, oui.
Mais passer dans le concret, ça n'a rien à voir avec l'image qu'on peut s'en faire. Et c'est là aussi où beaucoup de collectifs explosent ou implosent, oui. Parce qu'on n'est pas forcément prêt, non seulement à vivre en pleine nature et vivre ensemble.
Bien sûr. Alors, faut imaginer l'hiver. Quand même, il y a 4 mois de pluie, où il n'y a pratiquement pas de soleil. On est à l'intérieur, on sort, il y a de la boue. Et c'est, il fait froid, il faut sortir pour aller chercher le bois. Effectivement, les activités sont ralenties. Où il y a l'ennui, où il y a la colère, où il y a des choses qui ne vont pas. Mais c'est pas facile. Puis après, ben, il y a le printemps. Mais le printemps, ben, faut bosser comme des ânes. Il faut bien qu'on retourne pas la terre, évidemment, mais il faut amener du compost, il faut avoir fait le compost, etc. Quand on fait les patates, et pendant 3 jours, on bosse comme des nègres. Donc après, ben, il faut désherber, il faut sarcler, il faut entretenir les haies. Enfin, il y a une foule de choses. Quelque part, on n'arrête pas. Et puis on reçoit du monde en plus, tout ça. Donc, et il faut s'organiser, il faut faire des réunions pour savoir ce qu'on va faire, les programmes qu'on va faire, les projets qu'on a. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on a à faire. C'est pas toujours facile. Hein.
Donc ça, c'est beaucoup de contraintes liées à l'environnement, mais aussi la contrainte qui est souvent économique. Donc aller vers une forme d'autonomie, forcément, on va réduire ses dépenses, c'est une évidence. Mais il faut quand même aussi trouver un moyen de générer un modèle économique qui va permettre de pallier à ses besoins essentiels.
Alors le paradoxe, nous on constate, c'est que les jeunes n'ont pas d'argent et que pour être autonome, il faut un minimum d'argent. Et donc je pense que c'est aux personnes âgées. Et là, j'ai envie de m'adresser aux personnes qui ont de l'argent et qui sont âgées, un peu moyennement beaucoup, l'argent, je parle. Arrêtons de mettre l'argent au Crédit Agricole ou telle banque, parce que vos enfants vont emprunter l'argent que vous mettez avec intérêt. Donnez-leur de l'argent. Diminuez vos besoins, ou plutôt vivez heureux en étant âgés. Mais si vous avez un surplus, s'il vous plaît, donnez-le à vos enfants, à condition, bien entendu, qu'ils aient des projets qui servent la planète, c'est évident. Mais moi, c'est un appel que je fais aux personnes de notre âge qui vont péter leur argent en faisant des croisières, etc. Moi, ça me fout un peu le moral en l'air.
La partie autonomie, ouais, j'aimerais bien quand même peut-être qu'on chiffre un petit peu une vie où on est là à essayer de repenser, limiter ses besoins.
On a des chiffres. Par exemple, n'essayez pas d'être autonome si vous n'avez pas calculé votre consommation énergétique en kilowattheure. Si vous consommez 10 kilowattheures par jour et par personne, le savez-vous ? Non, la plupart des gens qui veulent être autonomes, ils ne savent pas leur consommation. Alors, je vous donne tout de suite un chiffre. Entre 3 et 5 kilowattheures par jour, ce n'est pas plus. À moins de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec l'autonomie, vous avez 5 éoliennes et 100 mètres carrés de photopiles, là vous êtes autonome. Mais ça n'a plus aucun sens. L'autonomie, telle qu'on la conçoit, n'a de sens que dans le cadre de la sobriété heureuse. C'est d'abord diminuer ses besoins et aligner les productions d'électricité à nos besoins. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas acheter 3 éoliennes pour satisfaire ses besoins. Vous voyez, c'est très important. Et alors, pour la nourriture, j'ai donné un peu tout à l'heure, on peut être relativement facilement, au bout d'un certain temps, à 50% 6 mois de l'année autonome en nourriture. Alors évidemment, on n'est pas autonome en huile, en quinoa, en céréales, d'où l'intérêt de l'autonomie solidaire. Et qu'en fait, ce qui se passe depuis le temps qu'on est là, depuis 30 ou 40 ans, il se crée, je ne dis pas qu'on a créé, mais il se crée un réseau naturel parce qu'on a besoin de céréales, parce qu'on connaît des gens, eh bien on a des agriculteurs qui nous fournissent le carbone parce qu'on n'est pas autonome en carbone. Et ça, c'est très important quand on est de la fin de la période. Il faut de la paille, il faut du BRF, il faut des choses comme ça. Donc, on crée des liens non organisés entre les personnes qui peuvent nous aider à être autonomes. Donc, après, l'éco-construction, j'ai fait une maison à 10 000 euros. Celle qui est derrière le zoom que vous ne voyez pas, elle est à aujourd'hui 25 000 euros de matériaux. Donc, les chantiers participatifs, tout ça, ça diminue le coût. Non, mais ça suppose aussi qu'il y ait une micro-société qui commence à s'organiser pour faire des chantiers participatifs et puis également des gens compétents pour les animer. Voilà, donc, alors l'eau, l'important, c'était d'abord d'avoir de l'eau bonne à boire. La source, je rappelle que la source de l'eau, c'est le nuage. Et donc, nous, on a une eau exceptionnelle qui tombe sur notre toit et qui est conservée dans ce qui ressemble à des nappes phréatiques, c'est-à-dire des citernes en ciment. Donc, le coût, c'est quand même 2 000 euros pour être autonome en eau, pour la vie et pour les générations futures. Donc l'investissement qu'on fait là, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants.
50 ans d'expérience sur le terrain. Nous, jeune génération, on a l'impression que tout va de plus en plus mal. Tu avais l'air de dire que finalement, oui, mais en même temps, il n'y a jamais eu autant de choses positives qui émergent sur les territoires.
Ben, moi, je pense que ce qui est invraisemblable, c'est la bio. Ça veut dire la vie, hein. Je rappelle que bio veut dire vie. Aujourd'hui, même les agriculteurs intensifs commencent à regarder la bio comme étant une solution. Quand on est arrivé ici, on était des vilains petits canards, on parlait de bio. Donc il est fort possible que un jour, la bio, malgré les atermoiements politiques, parce qu'aujourd'hui, on a depuis peu le droit de mettre des insecticides à moins d'un mètre des maisons. Mais il y a une poussée populaire qui fait que, d'accord, il y a des gens qui viennent chez nous, ils sont déjà en partie convaincus. Mais ces gens qui viennent chez nous, ils en parlent à leurs cousins, à leurs voisins, etc. Et on voit quand même qu'il y a quelque chose qui pousse. Il y a quand même beaucoup de choses. La conscience écologique, maintenant, ça y est, elle semble universelle. Au lieu d'être des marginaux, celui qui n'est pas écolo est marginal. Donc c'est incroyable. Il y a eu beaucoup de choses vraiment sympas, quoi. Et on sait bien qu'il y a de la récupération, on n'est pas naïf, mais quand même.
On fait comme on peut.
Ouais, cette notion de faire sa part, ce serait quoi la part? C'est quoi cette goutte d'eau que vous voulez poser?
L'enthousiasme.
Je suis désolé, mais c'est la même chose. C'est la joie de vivre, la légèreté, la simplicité, l'enthousiasme.
Merci Brigitte, merci Patrick, c'est parfait. Le podcast s'appelle La Voix des Oasis. C'était Patrick et Brigitte Baronnet qui nous ont présenté la maison autonome et l'éco-hameau du ruisseau dans lequel ils s'activent à mettre plus de sens et d'exemplarité dans leur quotidien. Vous pourrez retrouver ce podcast sur le site de gaiaimage.com.